Chapitre 72. Construite à flanc de colline autour d'un port bondé de grands navires et de bateaux de pêche, Sérimundi, une très ancienne cité, abritait une infinité de bâtiments serrés les uns contre les autres. De la forêt d'antan, il ne restait que quelques parcs traversés par les canaux qui alimentaient en eau les habitations et servaient au transport des biens et des personnes. De son point d'observation, Nietzsche dut reconnaître que Sérimundi, avec ses toits de tuiles sombres et ses façades blanches, était une ville splendide et aussi mal défendue que possible. En émergeant du puits, Nietzsche avait toussé comme une perdue, certaine qu'elle allait s'étouffer. Son souffle repris, elle s'était avisée que la Slif ne lui avait pas ordonné de respirer, contrairement à d'habitude. Se relevant, elle avait vu que la créature de vif argent la regardait méchamment. Sans annoncer à sa voyageuse qu'elle était à destination, la Slif s'était enfoncée dans son puits pour disparaître au cœur des profondeurs insondables qu'elle était seule à connaître. Au sommet d'une colline qui dominait un port, la magicienne se tenait au centre d'un temple à ciel ouvert entouré de colonnades. Autour d'elle, dans des vasques, des fleurs fraîchement coupées embaumaient l'atmosphère. Sur un autel, des fruits finissaient de pourrir dans une coupe, quelque offrande à un dieu ou à une déesse oubliée là depuis des jours. Pivotant sur elle-même ce qui avait fait crisser les feuilles mortes sur le sol, Nietzsche avait découvert la statue d'une femme dont la longue chevelure évoquait des vagues. Les mains tendues, la déesse implorait on ne savait trop qui. À l'entrée du port de Sérimundi, une statue géante représentait la même divinité. Douce mer, la mer. Sur l'île de Shiria, Bannon avait appris à vénérer cette déesse, une foi partagée par toutes les populations de la côte de l'Ancien Monde. Cette ferveur, dans la plupart des cas, n'était pas incompatible avec la croyance en l'existence du royaume des morts et des esprits. Une bonne chose, puisque la magicienne, après ses sinistres expériences avec le gardien, était bien placée pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une croyance, justement. Quoi qu'il en soit, elle était donc arrivée dans un temple isolé consacré à Mère la Mer. Bizarrement, la déesse ressemblait beaucoup à la Slif. Des millénaires plus tôt, un berger crédule avait-il vu la créature émerger de son puits après avoir transporté un agent de Sulakan? Le culte de Mère la Mer reposait-il sur un malentendu? Bien que désert, le temple ne semblait pas abandonné. En principe, les adorateurs de Mère la Mer délivraient leurs offrandes et sacrifices au large, mais si l'hypothèse au sujet de la Slif était juste, il paraissait logique qu'on ait construit un lieu de culte autour de son puits. Dehors, des chemins pavés serpentant dans un grand jardin laissaient penser que les fidèles suivaient un chemin balisé pour arriver jusqu'ici. Une sorte de promenade méditative. Par une trouée entre de hautes haies, Nietzsche avait aperçu des silhouettes. Des adorateurs qui venaient au temple, sans nul doute. Peu désireuse de leur expliquer comment elle y était arrivée, elle en était sortie dans la direction opposée, filant sans demander son reste. Après avoir observé la ville, la magicienne, marchant d'un bon pas, atteignit très vite les rues bondées où des femmes cousaient assises devant leurs maisons, tandis que des hommes s'échinaient sur des établis d'artisans à ciel ouvert. De très rares passants remarquèrent Nietzsche. Peu soupçonneux de nature, les citadins avaient en outre l'habitude des étrangers. Dans ce contexte, comment s'étonner que la robe noire de la magicienne, pourtant très éloignée des critères de la mode du coin, ne lui ait valu que de rares regards? Nietzsche était venu une fois à Sérimundi, à l'époque où Nathan et elle naviguaient à bord du randonneur des vagues. À l'époque, ils étaient de simples émissaires de l'Empire d'Aran chargés de sillonner l'Ancien Monde. Nietzsche avait brièvement rencontré le maître du port, Otto, pendant que le capitaine Eli Corwin ravitaillait son navire. Eh bien, commencer par prévenir Otto semblait une bonne idée. Alors qu'elle longeait un canal, un batelier proposa de la transporter. Adepte de la marche mais pressée par le temps, elle accepta avec gratitude que l'homme la conduise jusqu'à la capitainerie du port. Pendant le trajet, elle observa les bâtiments nichés sur les collines. Avec ses vergers et ses quartiers commerciaux, Sérimundi était une ville ouverte et accueillante. En d'autres termes, en cas d'attaque, elle ne valait guère mieux qu'un agneau sacrificiel. Pratiquement épargnée par l'ordre impérial, cette cité vivait dans l'insouciance, et il allait falloir changer ça. Le batelier déposa Nietzsche devant la capitainerie au bord de l'eau. Derrière des bureaux, des fonctionnaires consciencieux compilaient la liste de tous les navires qui entraient dans le port, en mentionnant le nom du capitaine, la nature de la cargaison et le port d'origine. Trois clercs blanchis sous le harnais travaillaient sans relâche. L'un d'eux daigna pourtant lever les yeux sur Nietzsche, le front plissé, comme s'il avait plus de mal à la voir qu'à déchiffrer les pattes de mouche de ses livres comptables.
« Le maître du port auto n'est pas là, madame. Il est allé accueillir un navire. Sa fille vient de se fiancer au capitaine Ganley.
« Quel navire? Je le retrouverai sur les quais.
»« La Vierge des Brumes,
dit un autre fonctionnaire.
Auto devrait y être. »
Lesté de l'artefact d'Elsa, Nietzsche s'engagea sur les quais et passa devant un bateau de pêche à la coque couverte du fluide noir sécrété par les tentacules des kraken. En matière de puanteur, seuls les feuillets d'une armée en campagne auraient pu s'aligner. Toute voile dehors, un bateau se dirigeait vers l'embouchure du port. Une main en visière, Nietzsche étudia la grande statue taillée à même la falaise qui se dressait à cet endroit. Là aussi, Mère la Mer était le portrait craché de la Slif. La Vierge des Brumes, un trois-mâts, se révéla encore plus imposante que feu le randonneur des vagues. Les voiles ferlées, des haussières l'arrimant au quai, le bâtiment avait déjà été déserté par son équipage, à l'exception d'une poignée d'hommes qui traînaient sur le pont. Alors que des marchands discutaient encore répartition de la cargaison, des dockers chargeaient les caisses et les tonneaux sur des chariots. Au milieu de la rampe d'embarquement, Nietzsche aperçut le maître du port, qui descendait vers le quai d'un pas vif, son chapeau de cuir sur le crâne. Sur le pont de la Vierge des Brumes, une jeune femme s'entretenait avec le capitaine, un barbu, à la fière allure. Nietzsche supposa que c'était la fille d'Otto, celle qui se marierait bientôt avec le nommé Ganley. La jeune femme avait perdu son mari, le capitaine Corwin, lors de l'attaque des Selkas. Très bientôt, elle aurait un nouvel époux. Sachant se montrer bienveillant et équitable, le maître du port était apprécié par les citadins de toutes les classes sociales. Si Nietzsche parvenait à le gagner à sa cause, il ferait un allié précieux. Elle l'aborda d'un ton très professionnel.
Maître du port, il faut que je vous parle.
Oui, et en quoi puis-je vous aider?
Nous devons donner l'alerte partout à Sirimundi.
L'alerte? Et pourquoi donc?
Une horde d'antiques soldats fondra bientôt sur l'Ancien Monde. Pour l'instant, ces soudards assiègent Île Dakar, mais Sirimundi doit se préparer au pire. Par bonheur, si on agit vite, il n'est pas encore trop tard.
Otto sembla plus intrigué qu'inquiété par ces révélations.
Une horde? L'ordre impérial, vous voulez dire? D'après ce qu'on raconte, Jagang est mort et ses forces sont en déroute. Qui pourrait nous menacer?
Jagang est mort, oui,
confirma Nietzsche sans préciser que c'était de sa main.
Il s'agit d'une autre armée qui servait Croc de Fer il y a 15 siècles. Ces soldats étaient victimes d'un sort, mais ils se sont réveillés.
Otto ricana.
J'ai l'habitude des fables que les matelots racontent sur les monstres marins, les Selkas et les Kraken. Si c'est une blague, elle est lourdingue.
Nietzsche sortit l'artefact d'Elsa, le déballa et montra les images de l'armée d'Outros.
C'est la stricte vérité. Île Dakar, la cité légendaire, subit un siège. Qu'elle tienne ou qu'elle tombe, le général Outros continuera sa politique de conquête. Tôt ou tard, il arrivera en vue de Sirimundi, dont il va falloir renforcer les défenses.
Otto ricana de plus belle.
Île Dakar! Si elle existe, cette cité est à l'autre bout du monde. Depuis des siècles, personne n'en a entendu parler.
Île Dakar existe, et elle n'est pas si loin que ça d'ici. L'Empire d'Aran prévenu, des soldats sont sûrement déjà partis de Tanimura. Sérimundi doit se joindre à l'effort de guerre.
Le maître du port éclata de rire.
Quand on a survécu à l'ordre impérial, personne ne vous fait plus peur, madame.
Otto plissa les yeux pour mieux étudier l'artefact.
D'où tenez-vous ça?
Il tapota le verre comme si l'image allait se dissiper.
Vous arrivez de la mer? Sur quel navire?
Une magicienne a d'autres moyens de voyager. Il y a quelques mois, nous nous sommes croisés. Je naviguais sur le randonneur des vagues, mais il a fait naufrage après avoir été attaqué par les Selkas. Des messagers de surplomb du monde ont dû vous apprendre la nouvelle.
Redevenu sérieux, Otto hocha sombrement la tête.
Oui, un vrai drame. Ma fille Shira était mariée au capitaine Corwin. Heureusement, elle a retrouvé chaussure à son pied. Vous êtes Nietzsche?
C'est ça.
La magicienne brandit de nouveau l'artefact.
Vous devez me croire. L'armée d'Outros est aussi imposante que celle de Jagang. Un jour ou l'autre, elle vous menacera.
Pensif, Otto ne répliqua pas tout de suite.
Maintenant que vous en parlez... Ce matin, m'a-t-on dit. L'équipage d'un bateau de pêche a raconté partout qu'une ou deux agglomérations ont été rasées sur la côte. Efren et une autre dont le nom m'échappe. Mais ce sont des rumeurs et je doute qu'ils fassent alarmer avant de les avoir vérifiées. Sinon, ça correspond à ce que vous redoutez? Une attaque sur la côte?
Non. Le général Outros est encore loin à l'intérieur des terres, mais il finira par arriver. Croyez-moi, la menace est grave et il faut vous préparer.
Otto hocha distraitement la tête.
J'en prends note, merci. Mais Serimundi ne dispose d'aucune force armée. Le port grouille d'activité, la population est prospère et le commerce bat son plein. Nous ne sommes pas sur le pied de guerre, très loin de là.
C'est pour ça que je suis venu vous avertir.
Malgré l'artefact d'Elsa, la menace semblait mineure à cause de la distance. Mais Outros avait déjà envoyé plusieurs corps expéditionnaires. Si ses troupes continuaient à avancer sans avoir besoin de boire et de manger, elles traverseraient très vite le continent.
Maître Duport, vous ne comprenez pas le danger. Cette armée ne doit pas être ignorée.
Otto étudia de nouveau l'artefact.
Mère la mer nous protégera, comme toujours. Nous n'avons rien à redouter.
Agacé, Nietzsche remballa le miroir magique d'Elsa.
Souvenez-vous de moi, quand le malheur vous frappera.
Comme s'il avait déjà oublié son interlocutrice, Otto ajusta son chapeau et s'éloigna en souriant. Sur le pont de la Vierge des Brumes, sa fille le salua, puis enlaça son fiancé. En espérant avoir plus de chance qu'avec Otto, Nietzsche remonta le quai où des marins discutaient par petits groupes en attendant d'embarquer. Pour passer le temps, certains sculptaient des morceaux de bois ou des os de kraken. Trois vieux loups de mer se passaient et se repassaient une bouteille de vin. Nietzsche montra son artefact à tous les gens qu'elle croisa. Sans grand résultat, hélas. Avisant quatre types torse nu à l'air arrogant qui se prélassaient sur des voiles entassées près d'une bitte d'amarrage, elle reconnut leurs tatouages et identifia des pêcheurs de perles souhait. Sur le rang d'honneur, des collègues à eux avaient tenté d'abuser d'elle, sans succès. Du coup, quand les Selka les avaient étripés, ça ne lui avait pas arraché des larmes. Intrigués par l'attention qu'elle leur accordait, les types se redressèrent un peu.
« Si cette ville était attaquée, demanda Nietzsche, vous daigneriez lever le petit doigt pour la défendre? Ou êtes-vous des bons à rien comme les autres pêcheurs de perles que je connais ?»
Furieux, les quatre faquins foudroyèrent la magicienne du regard.
« En tout cas, si tu viens dans mon lit, je daignerais lever quelque chose. »
« Continue sur ce ton et je lèverai un index pour briser menu tous tes os. »«
Bon, passons aux choses sérieuses. Une armée menacera bientôt cette ville. »«
Quelle armée ?»
demanda un autre pêcheur.
« Nous n'en avons pas entendu parler. »«
C'est bien pour ça que je vous préviens. Si vous savez vous battre. »«
Nous, notre spécialité, c'est plutôt plonger. »
rigola un troisième homme.
Ces idiots ne prenaient pas l'affaire au sérieux.
Pour les convaincre, Nietzsche leur montra l'artefact, sans grand succès.
Cette armée dans les montagnes, nous n'en avons pas ici.
Les montagnes, ça se traverse. Des troupes avancent.
Si elles sont encore loin, ça ne m'inquiète pas, dit le premier type.
Moi, je crois qu'il n'y a pas plus d'armée que du beurre dans mon œil,
avança le deuxième.
Ce truc-là, avec les images, c'est de la magie, on pourrait y voir n'importe quoi.
Moi, je sais ce que je voudrais qu'on m'y montre,
souffla le pêcheur lubrique.
Nietzsche envisagea de lui travailler un peu les testicules, histoire de retenir son attention. Mais pourquoi perdre son temps? Connaissant les pêcheurs de perles sous, elle ne s'était pas attendue à grand-chose et elle avait eu bien raison. À Serimundi, la tâche serait moins aisée qu'à Tanimura, où le général Linden lui avait prêté une oreille attentive. Ici, on ne la connaissait pas. Pas encore. Alors que les jeunes coqs se moquaient d'elle,
Nietzsche entendit des cris à l'autre bout du port. Sur la Vierge des Brumes, une vigie occupée à jeter des miettes de pain aux mouettes venait de lâcher son panier pour crier à plein poumon. Tout autour, d'autres navires relayèrent l'alerte et des cloches sonnèrent. Au-delà de l'entrée du port, une colonne de fumée montait dans le ciel, puis un vaisseau en flammes apparut dérivant sur l'onde. Un bateau de pêche au Kraken, déjà en train de sombrer. Affolé, l'équipage sautait à l'eau. Pris par le courant, deux malheureux allèrent se fracasser contre la falaise sous la statue de Mère la Mer. Le bateau en feu, la ligne de flottaison de plus en plus basse, continua à dériver dans le port.
« Navire en flamme !» crièrent toutes les vigies. « Navire en flamme !»
Le bâtiment bascula sur un côté. Craignant que le feu se propage aux autres navires, puis au quai, des travailleurs accoururent. Prudents, plusieurs petits bateaux filèrent vers le large. Mais le navire en flamme sombrait déjà. Une main en visière, Nietzsche sonda le large en quête de ce qui avait bien pu mettre le feu au bâtiment. Comme tout le monde, elle eut très vite la réponse. Ses voiles bleues nuit gonflées par le vent, une galère entra dans le port dans le sillage du bateau qu'elle avait incendié. Très vite, il apparut que d'autres la suivaient. 9 de plus exactement. Toutes les cloches sonnèrent et des centaines de cris retentirent. Nietzsche n'avait jamais vu autant de Norukaïs en même temps. Une force d'invasion. Pas celle qu'elle aurait crue, mais le danger était le même.